Attention, reportage. Les musiques actuelles.
Entrez. Asseyez-vous. Enlevez manteau. Entrez. Asseyez-vous. Du calme. Nous commençons traitement.
Bah ici au moulin de Poncet, donc en ce joli mois de mai, nous croisons Mazir, Panier, à tes côtés de Boulawan. Voilà. DJ Boulawan. Sur le set. Et puis donc tu es sur scène avec des anciens nouveaux collègues à toi, les Gnawa.
Là c'est des anciens collègues. Ah. Même Boulawan d'ailleurs c'est un ancien collègue, sauf que on jouait pas ensemble dans Gnawa, mais. On s'est mis à travailler ensemble il y a un petit moment déjà, ça fait je crois depuis 2005 qu'on fait des choses ensemble. On a participé notamment ensemble à un projet qui s'appelait Doka sur Roubaix à la condition publique, où on animait pas seulement que à tous les deux mais avec d'autres gens aussi un atelier qui s'appelait le Doka Lab. C'était une sorte de laboratoire musical où on accueillait à la fois des musiciens, mais aussi des comédiens. On a accueilli un comédien d'Algérie, un Gnaoui aussi. Il y a eu qui aussi dans le Doka Lab, je sais plus.
Il y a eu...
Mis à part nous, ce qu'on a inventé. Ah ouais, c'était Doka Lab. En fait, c'était une formation, et on faisait des bacs pour les artistes.
Et
qui étaient. Il y avait des Palestiniens aussi.
Donc tout ça entre Gnawa et le projet aussi.
Voilà, ça c'était en 2005, donc c'était
d'accord.
Puis après, par la suite, on a participé à un montage d'une pièce de théâtre de mon père qui s'appelle Mohamed prend ta valise, dans laquelle Boulawan faisait pas mal de bruitage et participait à la musique, puisqu'on était les musiciens et les comédiens sur scène en même temps. Et puis après, naturellement, ça s'est fait que quand je me suis remis à bosser après Gnawa, après la petite pause que j'ai prise, naturellement, il y avait Najib déjà dans le son, puisqu'il y a quelques morceaux, notamment Africain et Bonjour, qui sont nés en fait pendant la pièce de théâtre. Quand on montait la pièce, on a monté ces trucs-là, donc ils se sont retrouvés sur l'album. Bon, voilà,
finalement, c'était un peu le début de.
Ça nous a lancé dans une direction. Quoi.
Voici le coin de boue où dormait mon front fier. Voici ma vie à moi rassemblée en poussière. Je te rapporte un peu de cœur. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour mes vieux copains. Je vous reviens avec ma gueule de paladin solitaire. Et je sais que ce soir monteront des chants infernaux au hurlement des vents par les cris de décembre. Hurlement des vents par les cris de décembre. Bonjour ma vie, et vous mes désespoirs. Me voici au fossé, où n'a qui ma misère. Voici le coin de boue où dormait mon front fier. Voici ma vie à moi rassemblée en poussière.
Explosion.
là du DJ, on entend à un moment des voix nues dans le concert. Hein. Ça, c'est toi qui as enregistré que
non,
lui
c'est
balance.
Mon c'est mon cousin Reda Kateb qui est comédien et qui a notamment tourné dans Le Prophète, c'est le dernier film, mm-hmm. Fils d'Odia, qui a super bien marché. Et c'est lui qui joue le personnage du gitan qui vend des films porno en prison.
D'accord.
Voilà, donc c'est lui qui fait les voix off. Et c'est avec lui aussi qu'on avait monté la pièce. Donc on va me prendre la valise. Il faisait une partie de la mise en scène. En fait, il faisait une mise en scène commune avec un autre comédien iranien qui s'appelait Hamid. Et voilà, donc il y avait une mise en scène qui était faite à deux. Et les deux jouaient dans le spectacle. Et en même temps, en fait, pendant cette création, il s'est passé plein de choses marrantes. Notamment que nous, pour se détendre, on faisait de la musique après les répètes théâtre. On rentrait à la maison, parce qu'on était tous en résidence dans un appart. Quand on rentrait, on jouait. Et en fait, en jouant, on a monté une petite formule qu'on a appelée Katimini, mais qu'on a fait tourner que pendant la pièce. Mais on jouait dans les bars à Lille, parce qu'on était à Roubaix, tu vois. Donc on a joué...
Okay.
On a joué dans des bars à Roubaix, dans des bars à Lille, tout ça. On a essentiellement tourné dans des bars. On a été joué à Charleville aussi une fois sur une vraie scène. Et sinon, c'est vraiment une formation qui a surtout tourné dans des bars. Et c'était une formation à la fois de déclamation poétique et de musique. Donc c'était vraiment alterné entre les deux. Parfois, la déclamation rentrait dans la musique. Parfois, elle était toute seule. Parfois, elle était juste accompagnée de petits éléments. Et puis parfois, ça massait vraiment dense, tu vois, dans le répertoire. Il y avait des choses qui étaient très, très dansantes aussi. Et donc, on avait envie aussi de retrouver ce truc-là, même en formation comme ça. Parce que Reda, il a un emploi du temps qui est chargé. Il est comédien, tu vois. Quand tu bosses sur un film, t'es réquisitionné pendant 8 mois sur le même truc. Donc, ne pouvant pas être là tout le temps, on a enregistré sa voix, donc on la balance régulièrement.
Donc, exprès pour les chansons.
Ouais.
C'est pas exprès d'un film ou d'une pièce.
Non, 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 voilà. C'est La rue des Vandales, c'est un texte de mon père qui est sur Le cadavre encerclé. C'est le cadavre aussi, c'est Le cadavre encerclé. Parce que je confonds avec les ancêtres de Faire aussi. Et donc, voilà, c'est des extraits d'un texte, hein. C'est pas tout le texte, le texte est long. Le texte s'appelle La rue des Vandales et ça rejoint un peu ce qu'on avait envie de faire de ce spectacle, à savoir rendre un peu un décor de rue, ou en tout cas rendre une atmosphère poussiéreuse, quelque chose qui soit pas propre, qui soit pas comme la R&B d'aujourd'hui ou toutes les merdes super brillantes là, tous ces trucs là. Je crois qu'on a tous un point commun quand même dans cette formation, y compris le sonorisateur. Je crois qu'on n'aime pas des trucs trop propres.
Quand
c'est un peu...
On sent qu'il y a une imagerie un peu punk avec ton anarchie, que tu veux revendiquer, tout ça, il y a pas mal de choses.
L'anarchisme, la révolution, le communisme, tout ça.
Une mondialisation, une universalité également.
C'est important, parce que les identités, elles prennent leur véritable sens que quand elles sont dans l'adversité ou dans la différence. Et par exemple, l'identité de l'Algérie, elle est encore plus puissante quand elle est exprimée au milieu de quelque chose qui n'est pas algérien. Elle est d'autant plus pertinente parce que ça, c'est pas, tu vois, c'est comme un peu le débat sur l'identité nationale en France. Pourquoi il est si peu pertinent ? C'est parce que c'est défoncer des portes ouvertes que de parler d'identité nationale en France. Moi, j'ai envie de dire aux gens qui marchent là-dedans ou qui répondent ou qui essaient de ranger cet os, j'ai envie de leur dire, mais il suffit juste de voyager, d'aller ailleurs, d'aller dans un pays qui n'est pas le vôtre, et vous allez voir ce que ça veut dire qu'être français. Vous allez ressentir très naturellement ce que ça veut dire qu'être français.
Ouais.
De la même manière que moi, j'ai ressenti très naturellement ce que c'était qu'être algérien en arrivant en France.
C'est lundi fait France ?
Ben oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ça. C'est juste à un moment donné que le fait de voyager, le fait de bouger, d'aller voir d'autres gens, ça te ressource, ça te ramène à toi-même, en fait. Ça te ramène à toi-même parce que aussi tu te rends compte que tu as des points communs avec les gens d'ailleurs. Tu as énormément de liens avec les hommes qui peuplent cette terre et que les seules différences deviennent des particularités identitaires. Et ces particularités-là, elles sont tout sauf exacerbées, tout sauf violentes, tout sauf haineuses.
La France c'est très cool, la France c'est très cool, alors sois cool avec la France. C'est tellement super cool, tu vois pas l'indifférence. Tellement super cool, tu vois pas l'indifférence.
Être algérien, c'est pas détester le français. Être français, c'est pas détester l'allemand, etc. C'est tout simplement aller trouver une identité à l'intérieur de soi, dans un contexte particulier, si possible en dépaysement. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour retrouver son identité. Je pense qu'on se mord souvent la queue en faisant des quêtes identitaires in vitro. Tu vois, des choses à l'intérieur, ça sert à rien.
Et de toute façon, c'est une question qui est venue par Sarkozy.
Oui, mais de toute façon.
Et lui-même étant immigré,
ouais.
Je pense que c'est un complexe personnel qui a voulu.
De toute façon, tout le monde sait que Sarkozy rêve d'être nègre, on le sait ça. Bon, c'est une vieille frustration. On sait que. J'aimerais bien être aussi grand que Barack Obama.
Tu vois ses origines.
Ouais, et ouais.
Tu vois que c'est un problème, à mon avis, qui a réglé avec eux.
Mes malheurs, je ne les dirai pas. Combien de journées sans repas. Il y a des aveux inavouables. À confier au vent de sable, à confier au vent de sable, à la forêt, à la rivière, je dédie nos insurrections, et je maudis vos meurtrières prières, et vos odeurs de couvent, et vos odeurs de couvent. La France est une femme sans histoire qui raconte des histoires sans souffrance. Madame a fait souffrir le monde, madame fait encore souffrir le monde. La France est une femme sans histoire qui raconte des histoires de Côte d'Ivoire. La France est l'histoire. Ici banal égal que le beuglement du monde qui dans les rumeurs parle les balles et revit en rumeurs de scandale sous les étoiles et dans la poussière. L'Amérique est une femme sans histoire qui raconte des histoires à qui veut croire. Madame a fait souffrir le monde, madame fait encore souffrir le monde. L'Amérique est une femme sans histoire qui aime faire son shopping à Bagdad le soir. L'Amérique, quelle histoire! Mes malheurs aujourd'hui sont à vendre aux marchands d'armes de scoop et de bleu qui, à coups d'axe du mal et de terreur, nous imposent leur nouvelle cabale et nous rendent complices et conspirateurs. Israël est une femme sans histoire qui raconte des histoires coloniales. Madame a fait souffrir le monde, madame fait encore souffrir le monde. Israël est une femme sans histoire qui se mure et se cache derrière sa salle. Israël, quelle histoire! Qui raconte des histoires féodales. Monsieur est un monde qui fait bande à part. Monsieur veut couper les arabes. Il noie le poisson dans du pétrole et pêche le poison en terre d'islam. Le monde arabe, misère noire. Sans histoire qui raconte des histoires sans queue ni tête. Monsieur a fait souffrir le monde, monsieur fait encore souffrir le monde. Oncle Sam est un homme sans histoire qui a mis du monde sur le trottoir. Oncle Sam, quelle histoire.
Je voulais en revenir un peu à l'Algérie. Toi, tu connais, pour nous en parler. L'Algérie est une femme sans histoire. C'est facile.
L'Algérie est une femme qui a trop d'histoire. En tout cas, l'Algérie est une femme qui s'est fait voler son histoire, qui s'est fait kidnapper. C'est une terre qui a été envahie tout le temps, qui a rarement été tranquille, et qui a souvent pris de l'envahisseur des choses qu'elle a gardées. Donc on a gardé énormément de choses, des Arabes, des Turcs, des Romains, des Français, des Espagnols, des Italiens, y compris le nord de l'Algérie, qui est une région côtière.
La Kabylie ou...
Pas que, il y a une partie de la Kabylie qui est côtière, et à l'Oranie aussi, toute la bande nord. En fait, c'est vraiment une région de l'Algérie qui a beaucoup brassé le bassin méditerranéen notamment. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'apports à la fois ethniques, mais linguistiques, dans les habitudes alimentaires, nanana. Tu sens qu'il y a un peu de la Sicile, tu sens qu'il y a un peu de la Corse, tu sens qu'il y a un peu de Malte, tu sens qu'il y a de la Grèce, tu sens qu'il y a de ce que tu veux, de l'Italie, de l'Espagne, de la France. Et je crois que la colonisation française a été en Algérie une des plus violentes, parce que c'était une colonie de peuplement. On a fait croire aux militaires que c'était une terre vierge, qui n'avait pas d'habitants, et qu'on pouvait aller là-bas s'installer... et puis massacrer les gens. Donc en 1830, quand les armées de Napoléon sont arrivées en Algérie, elles ont commencé par massacrer.
Napoléon III, ouais.
Ouais. La campagne d'Égypte. Enfin, ce qui s'appelait la campagne d'Égypte, qui était en fait l'Algérie, c'était la fin de la campagne. Et donc l'Algérie a perdu énormément de choses de son histoire, parce que volontairement on a voulu détruire ça pour en faire vraiment. Un territoire français à part entière, beaucoup plus, de manière beaucoup plus violente et virulente que ça a pu l'être dans d'autres pays d'Afrique, notamment nos voisins, par exemple le Maroc et la Tunisie, qui étaient plus des plateformes économiques et qui ont été d'ailleurs colonisées bien plus tard. Nous, c'était vraiment... c'était aussi... Napoléon avait besoin de se délester du surplus de la révolution, du surplus de ces armées qui étaient mécontentes, qui mangeaient mal, qui dormaient mal, qui marchaient trop. Il fallait qu'ils retrouvent la forme, donc il les a envoyés en Algérie parce qu'il y avait beaucoup de richesses, parce que c'était aussi un deal avec les Turcs, avec les Ottomans pour venir s'installer. Et donc après un siècle et 30 ans de colonisation, donc entre 1830 et 1962, il y a tellement de choses qui ont été cassées, tellement de choses qui ont été détruites, que l'Algérie, finalement, celle qu'on connaît aujourd'hui, elle a commencé son histoire en 62. Comme si elle avait été estropiée d'une jambe, de deux jambes même, tu vois, de ce qu'elle a été avant, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec un pays, certes, indépendant, mais qui a perdu ses deux jambes. Et ces deux jambes qu'il a perdues dans l'histoire, ce pays... Bah, il ne va pas les retrouver comme ça, tu vois, c'est pas la queue d'un lézard, ça n'en pousse pas comme ça. C'est toute une reconstruction à faire, c'est vraiment comme si c'était un énorme arbre déraciné, mais auquel il reste juste une petite racine toute fine qui est encore dans la terre et qui alimente encore cet arbre. L'arbre, il est pratiquement écroulé, il est tombé, mais encore une racine qui va alimenter la sève, qui va aller chercher l'eau et les sels minéraux. Ça me fait penser à ça. Donc voilà, je crois que, en tout cas, ma perception à moi de l'indépendance de l'Algérie, c'est qu'on est dans une première étape d'indépendance, comme pas mal de pays d'Afrique d'ailleurs, et que la véritable indépendance, je pense qu'il va falloir qu'on la construise nous, entre nous, et les uns vis-à-vis des autres, parce que la colonisation nous a essentiellement confondu. Je crois que une des plus grosses catastrophes post-coloniales, c'est de nous avoir homogénéisé sans nous laisser donner nos voix. C'est-à-dire, on a homogénéisé plusieurs choses sans leur donner le temps de s'exprimer. Tu vois, c'est comme si tu arrives en réunion avec des gens et au lieu de laisser chacun dire, au lieu de faire un tour de table comme dans toutes les réunions, avant de commencer le tour de table, tu fais la réunion est close, on est d'accord. Et tu vois, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, bah, maintenant, il va falloir faire une vraie réunion, faire un vrai tour de table, écouter les uns et les autres, et surtout s'admettre les uns les autres et admettre qu'on peut être différent, qu'il y a plein de façons d'être algérien, qu'il y a plein de façons d'évoluer, qu'il y a plein de façons d'aimer Dieu, d'aimer son pays, d'aimer ci, d'aimer ça. Voilà, tout est à reconstruire.
C'était une très très vaste question, et puis je savais que j'allais kiffer dialoguer avec toi, et puis ton entourage, ouais. C'est marrant. Donc du coup, comment ne pas te demander ce que tu dirais sur les musiques gnawi, je crois qu'on dit, et, non, le pluriel de gnawa.
Gnawa. Ouais. En fait, gnawi, c'est le singulier, gnawa, c'est le pluriel ou le générique.
Est-ce qu'on apparente au berbère, au touareg? Est-ce que tu connais, avez-vous vu, écouté Tinariwen? Ouais, voilà. Et puis d'autres recommandations peut-être que vous avez. Qu'est-ce qu'on peut débattre bientôt?
Bah, je sais pas, je sais que Najib est un grand mélomane, quelqu'un qui connaît beaucoup de musique. Peut-être que lui, pourra t'expliquer, toi, tu peux.
En fait, ouais, moi je suis plus par géographie en fait que. Après, c'est vrai que les gens qui peuplent les régions, je suis moins ethnologue que musicien, donc je suis pas non plus dans trop dans le détail, mais, j'adore la musique ethnique, donc du coup, tout ce qui est tribal, tout ça, il y a tellement de choses que. Moi, à la base, vu que je suis DJ, j'aime bien tout mixer,
voilà.
Et forcément un peu casser les frontières avec la musique. Donc après, j'ai pas trop de style à mettre sur le. Mais par exemple, là on a un morceau avec Amas où je mets des voix de Bomas. C'est une région de Kenya, ouais.
Sur africain.
Ouais, sur africain, ouais. Voilà, des voix tribales et puis. Plein de trucs.
De Mauritanie, ouais, t'as du sang italien.
Ouais, voilà, des trucs en Mauritanie. Et là, en ce moment, c'est le Congo, il y a plein de trucs qui m'intéressent là-bas.
Il y a le Kuduro Style qui a bien marché Kuduro Style,
ouais,
qui c'est... vient d'Angola aussi, qui...
Ouais,
puis qui fait un peu le tour du monde.
J'ai entendu un peu ça sur les.
Ça, c'est des beats assez pêchus, et puis ouais, ça y va quand même, c'est sympa. Moitié disco, c'est bizarre.
Bon, en tout cas, par rapport à ce que tu disais, par rapport à Tinariwen, la musique berbère et tout, moi, il y a un truc qui me frappe, c'est que. C'est des musiques qui ont des histoires différentes, au sein d'une histoire qui est la même, parce que l'histoire des Touaregs et l'histoire des Gnawa est liée malheureusement par l'histoire d'esclavage, parce que les Gnawa ont convoyé les caravanes d'esclaves. Mais ce qui est frappant quand tu travailles avec des Gnawi et que tu travailles avec des Touaregs, c'est que les modes qu'ils utilisent sont les mêmes, que la façon de chanter ressemble beaucoup. Les mélodies, les structures rythmiques, tout ça, c'est quelque chose qui est très très proche. Et du coup, finalement, eh ben, la musique d'elle-même, elle a réconcilié des gens qui étaient a priori plutôt opposés. Enfin, tu vois, aujourd'hui, quand tu entends par exemple la musique Touareg et la musique Gnawa, on aurait plutôt tendance à les mettre dans la même famille de musique. Tu vois, parce que c'est un peu les mêmes sonorités, c'est les mêmes trucs lancinants, les mêmes trucs de trance, les rythmiques sont pratiquement les mêmes, les chœurs qui reviennent, les trucs aigus, vraiment ça ressemble beaucoup, c'est juste l'instrumentation qui est différente. En plus, chez les Touaregs maintenant, il y a le takamba, le style rock un peu, tu vois, avec les guitares et tout. Donc c'est clair, ça apporte aussi un son qui est plus blues, qui est plus rock blues, quoi. Ce qui est bien, hein, moi, je trouve ça magnifique. Mais quand même, tu sens bien le fond, tu sens bien qu'au fond, la musique, eh ben, elle a synthétisé quelque chose que peut-être les êtres humains, ils ont mis longtemps à synthétiser. Mais en fait, ce truc-là, il existait dans la musique, tu vois. Et de la même manière, il y a la même corrélation. On parle des Touaregs et des Gnawa, mais après, même si tu regardes des musiques blanches d'Afrique du Nord, donc la musique arabo-andalouse, le shabi, la musique marocaine, de manière générale, la musique algérienne, la musique tunisienne, et bien énormément d'apports rythmiques de la musique gnawa, y compris aussi des apports mélodiques, des apports, tu vois, dans les modes et tout, parce que c'est des gens, même s'ils ont été opprimés, leur musique était tellement puissante qu'elle a réussi à pénétrer les musiques dites du cru, dites classiques, enfin tu vois, ouais, installées, ouais, qui avaient déjà une histoire, etc. Ce qui prouve bien que la musique est une arme. Ce qui prouve bien que la musique, au bout du compte, elle arrive à vaincre les fouets, elle arrive à vaincre les chaînes, elle arrive à faire tomber des frontières, elle arrive à faire en sorte que, après peut-être des siècles d'esclavage et de souffrance, et d'esclavagisme aussi de l'autre côté, et ben, on arrive à un moment donné à toucher l'autre qui est censé être à l'opposé. Tu vois, moi quand je suis allé au Niger et que j'ai joué avec des Touaregs, j'avais mon Gembri. Et les gars, dès que j'ai joué du Gembri, ça leur a parlé. Et pourtant, c'est l'instrument de ceux que leurs ancêtres ont asservi. Ça ne devrait même pas leur parler. Enfin, tu vois, ça, a priori, s'ils étaient restés sur leur truc, ça ne devrait pas leur parler.
D'ailleurs, le Gombri, c'est un instrument typique Gnawa, ou il joue que le Gnawa?
Ouais, normalement, c'est Gnawa. C'est l'instrument de Gnawa.
Je vais avoir une dernière question, parce qu'on papote bien, tout ça.
Allez, soyons fous.
Et voilà, quoi. C'est la dernière. Les origines, on peut en parler du côté de Grenoble, l'Isère. J'ai vu, vous êtes immatriculé là-bas, vous seriez de là-bas.
C'est notre camion qui est originaire de Grenoble.
D'accord. Vous êtes reparti sur Paris ou...
Non, en fait, moi j'habite à Grenoble, et moi aussi, notre marchandiseuse. Ouais. Et après, Sam et Najib, ils habitent à Roubaix.
Uh-huh. Ah,
et
oui.
Amar et Mohamed, ils habitent à Paris.
D'accord.
Et du coup, nous tous, là, on ne sait plus où on habite.
Mais ça fait en plus un an que vous êtes sur la route.
Voilà. Donc, en fait, on habite plus sur la route finalement que dans nos maisons respectives, parce que on n'y passe pas beaucoup de temps finalement. Surtout que ça déménage en ce moment.
C'est vrai que les frontières sont inutiles.
Non, mais c'est vrai que on a plusieurs ports d'attache. Moi, je sais que j'ai beaucoup de plaisir à aller à Roubaix de temps en temps, parce que j'y suis allé pour bosser plein de fois et que je me suis fait aussi des amis, une famille, une ambiance. Mais déjà, Roubaix, c'est une ambiance à part entière. C'est vrai que c'est un endroit où il y a des liens qui sont créés. Du coup, je suis un peu comme à la maison aussi, vu que je me suis habitué à plus vraiment avoir ma maison. Donc j'arrive à me faire ma petite maison, même sur un petit canapé dans un salon, j'arrive à me faire ma petite maison. Okay.
Ça va rejoindre le concept intéressant dont j'ai parlé avec votre régisseur Olivier, c'est-à-dire que l'album, lui, il a été enregistré de manière nomade également.
Oui, il a été... D'ailleurs, on a commencé les prises en Franche-Comté, on a commencé les prises au Moulin de Brennan.
Magnifique endroit.
Ouais, super endroit avec des super gens. D'ailleurs, je salue Gabroche, Blaine et tous les amis là-bas. Et voilà, ils nous ont mis à disposition un endroit où on a posé nos machines. On était avec Sam au départ, on a commencé, il y avait de la neige, il était super froid, même l'eau chaude elle passait pas dans les tuyaux tellement c'était gelé, tu vois. Donc on a un peu souffert au début avec le climat, mais il y a déjà une vraie chaleur humaine, ouais. tu vois un peu le topo commencer. Enfin, ceux qui connaissent le Moulin de Brennan, je pense qu'ils voient très bien de quoi je parle.
Exactement.
Et voilà, donc cet album, cette marche noire a commencé dans le Jura, au Moulin de Brennan. Et puis voilà, après on a fait d'autres prises à Grenoble, quelques prises à droite, à gauche, à Roubaix aussi. On a fait des choses. Voilà, ça se fait de manière itinérante, un peu pas comme ça, pas comme en Amérique.
Mmh.
Voilà.
Très bien. Ben, je vous remercie à tous.
Merci à toi.
Bonne route.
Bonjour mes horizons lourds, les vieilles images de chimère. Je suis des oiseaux et des sublimes, et me voici saillant avec des notes visures. Un souffle et l'espoir en mon jardin pourri. Passez dans mon jardin pour y fleurir l'espoir. Bonjour ma vie, et vous mes désespoirs. Voici au fossé, ton âme qui m'a misère. Voici le coup de bout, où dormait mon vent en fleur. Voici ma vie à moi, rassemblée en la misère.
Ya, 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 ya